Excellent réveil à tous. Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Du compromis à la confrontation. Aux États-Unis, Donald Trump approuve l'accord trouvé au Congrès pour éviter une nouvelle paralysie de l'administration fédérale. Mais le président choisit d'aller au conflit en déclarant prochainement l'urgence nationale aux États-Unis afin de pouvoir construire le mur à la frontière avec le Mexique.
Pour que cesse l'inaction politique face au dérèglement climatique, un collectif d'étudiants appelle à manifester ce vendredi devant le ministère de l'Écologie.
S'inspirant notamment des précédentes mobilisations en Suède ou encore en Belgique. À la une encore, un nouvel échec hier pour Theresa May face au Parlement britannique sur la question du Brexit. Et puis, à moins de 3 mois des élections européennes, ce scrutin voit apparaître de nouveaux partis qui se structurent avec des chances d'obtenir des eurodéputés. Et c'est en Europe de l'Est que le paysage politique a le plus changé, vous l'entendrez.
Et puis, voiture électrique, la France est-elle encore dans la course? C'est la question qu'on va se poser dans une dizaine de minutes, Catherine. Et nous poserons cette question à Guillaume Pitron, lequel est journaliste.
Aux États-Unis, il n'y aura pas de nouveau shutdown, pas de nouvelle paralysie des administrations fédérales, pas de chômage technique comme ce fut le cas pour 800 000 fonctionnaires américains pendant 35 jours dès la fin décembre. Donald Trump accepte en effet de signer le compromis budgétaire trouvé au Congrès entre élus démocrates et républicains. Mais cet accord ne satisfait pas la Maison-Blanche car il n'est pas question de financer un mur à la frontière avec le Mexique, mais une barrière ou une clôture. Donald Trump veut donc déclarer l'urgence nationale aux États-Unis sur la question migratoire afin d'avoir les mains libres et les fonds nécessaires pour tenir sa grande promesse de campagne. Les précisions à Washington de Grégory Phillips.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec ce compromis budgétaire voté hier soir par le Congrès, Donald Trump est perdant. Il voulait 5,7 milliards de dollars pour sécuriser la frontière sud. Il n'obtient qu'1,4 milliard pour ériger quelques dizaines de kilomètres d'une barrière ou une clôture, mais il n'est pas question d'un mur. Alors pour reprendre la main, le président va déclencher cette procédure d'urgence. D'autres l'ont fait avant lui pour débloquer des fonds rapidement. W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001 ou Obama au moment d'une crise aiguë de grippe H1N1. Avec cette procédure, Trump va pouvoir lancer au moins symboliquement les travaux de son mur. Mais là encore, il a beaucoup à perdre. Les démocrates peuvent contester l'urgence nationale devant les tribunaux et ils ne manqueront pas de le faire. Hier soir, la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, a dit que la véritable urgence aux États-Unis, c'était le contrôle des armes à feu et pas l'immigration, alors que les statistiques montrent que le nombre d'arrestations de sans-papiers à la frontière est au plus bas depuis 20 ans.
Grégory Phillips le disait à Washington, la procédure d'urgence que va lancer Donald Trump risque d'être très rapidement contestée devant les tribunaux par l'opposition démocrate. C'est ce que sous-entendait hier la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.
Nous sommes en train d'examiner les options qui s'offrent à nous et nous nous préparons à répondre à cette initiative. Je sais que même les républicains sont mal à l'aise avec cette procédure parce que le président déclare qu'il y a une urgence nationale sur quelque chose qu'il a lui-même créé, un mensonge qu'il a inventé, les vagues de migrants. Vous voulez parler d'une véritable urgence? Alors oui, parlons du premier anniversaire de la fusillade de Parkland qu'on vient de commémorer. Les violences par arme à feu, ça c'est une urgence nationale. Pourquoi, monsieur le président, vous ne déclarez pas cette urgence-là. J'aurais aimé que vous le fassiez. Donc, ce que le président vient de décider, c'est consternant, y compris aux yeux de certains républicains. Et bien sûr, nous allons répondre à cela.
Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis. Eux réclament un état d'urgence climatique. Plusieurs collectifs de collégiens, de lycéens et d'étudiants appellent à la grève chaque vendredi désormais en France pour pousser donc les politiques à mieux prendre en compte l'urgence environnementale. Première manifestation cet après-midi devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Après de précédentes mobilisations en Suède, en Belgique notamment, 11 000 jeunes ont encore défilé hier à Bruxelles. Les collectifs de jeunes Français appellent eux aussi donc à manifester aujourd'hui et ils préparent la grève mondiale de la jeunesse pour le climat le 15 mars prochain. Le reportage de Célia Kiré.
Veste grise, écharpe bleue, allure sobre et ton très sérieux. Martial Breton n'ira pas en cours aujourd'hui. Cet étudiant en agronomie à Paris, passionné de biodiversité, estime qu'il n'a pas le choix. Les jeunes doivent se mobiliser.
On fait partie de cette génération climat qui, aujourd'hui, est née dans un contexte de crise écologique, crise climatique, crise sociale, très dure. Aujourd'hui, la priorité, c'est de, malheureusement de se battre pour notre avenir. Et peut-être qu'on pourra reprendre les études, on pourra reprendre le cours normal de notre vie si plus tard notre avenir est garanti.
Cet étudiant n'est ni dans un parti ni dans un syndicat, c'est un militant associatif. Il en veut au gouvernement qui privilégie toujours, selon lui, l'économie au détriment de l'écologie. Pour lui, il faut inverser les priorités, c'est du pragmatisme.
C'est plus des discours de hippies des années 70 qui courent nus dans les champs. Aujourd'hui, c'est des discours de réalité. Ce système économique n'est pas compatible, en tout cas avec une société en équilibre avec son environnement. Et il faut le changer absolument.
Depuis quelques jours, des actions commencent à émerger timidement dans une quarantaine de villes. Ces jeunes mobilisés ont commencé à prendre contact avec les syndicats d'étudiants et de lycéens, sans oublier les enseignants. Il leur reste un mois pour convaincre avant la grève du 15 mars.
Et le syndicat Sud Éducation a déjà lancé un préavis de grève pour le 15 mars prochain. Dans l'affaire du siècle et cette pétition en ligne qui bat tous les records en France avec 2,1 millions de signataires, le gouvernement s'est engagé hier à répondre dans les prochains jours à la requête préalable pour inaction climatique lancée par 4 ONG. Mais cela n'a pas rassuré la Fondation Hulot, Greenpeace, Notre Affaire à Tous et Oxfam qui restent déterminés à déposer leur recours en justice contre l'État. L'État qui devra payer bien plus que prévu pour rendre l'instruction obligatoire des 3 ans au lieu de 6. À la surprise générale hier, dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance, un amendement a été voté pour compenser davantage les nouvelles charges des communes. Elles devront financer notamment les écoles maternelles privées sous contrat. L'État avait prévu 100 millions d'euros de compensation financière, mais ce sera finalement bien plus, Sonia Princé.
Le gouvernement est piégé par cet amendement. Le projet de loi prévoyait une compensation financière uniquement pour les communes qui ne financent pas déjà les écoles maternelles privées sous contrat. Or, 2/3 des villes le font déjà par souci d'égalité et se retrouvaient donc pénalisées par le mode de calcul. L'amendement a été adopté de justesse et prévoit une compensation calculée chaque année. Mais le ministre de l'Éducation a demandé un second vote qui interviendra à la fin des débats, car le gouvernement n'avait certainement pas prévu ce financement supplémentaire, comme l'a dit le député Les Républicains Patrick Hetzel.
Oh, monsieur le ministre, je sais bien, vous avez perdu sans doute un arbitrage à Matignon vis-à-vis de votre collègue de Bercy, mais faut remonter au créneau. Votre rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est de gagner l'arbitrage vis-à-vis de Bercy. C'est comme ça que vous créerez de la confiance.
Les maires ont déjà eu à financer la réforme des rythmes scolaires, les nouvelles salles de classe pour les CPCE1 dédoublés. Ce serait injuste d'alourdir encore les budgets des communes, selon Marc Le Fur, l'un des vice-présidents de l'Assemblée.
Monsieur le ministre, vous avez de votre point de vue une grande réforme. Ne la gâchez pas, parce qu'on ne retiendra pas l'affaire des 3 ans. D'ailleurs, la plupart des enfants, ils vont déjà à 3 ans. On retiendra essentiellement le fait qu'un certain nombre de communes sont aidées et que d'autres ne le sont pas. La France est le pays de l'injustice.
Le ministre espère surtout avoir une majorité lorsque l'amendement sera réexaminé à la fin des 25 articles que compte le projet de loi.
L'avant-dernière séance de négociation sur l'assurance chômage a pris fin hier soir vers 22h30 après plus de 7 heures de réunion. Les discussions achoppent toujours sur la question des contrats courts et les moyens de lutter contre la précarité. Les syndicats ont donné au patronat jusqu'à mardi prochain pour proposer un système de modulation des cotisations du type bonus-malus sur les contrats courts. Sans cela, les syndicats ne viendront pas à l'ultime réunion prévue mercredi prochain. C'est l'une des figures des Gilets jaunes. Éric Drouet doit être jugé ce matin au tribunal correctionnel de Paris pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. Un délit passible de 6 mois d'emprisonnement.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Theresa May a essuyé hier une nouvelle défaite embarrassante au Parlement britannique.
Les députés ont en effet rejeté une motion dans laquelle le gouvernement expliquait comment il souhaitait renégocier l'accord sur le Brexit. De quoi fragiliser un peu plus Theresa May qui doit encore négocier avec Bruxelles les modalités de sortie de l'Union européenne. Brexit prévu dans 6 semaines. Et à 3 mois des élections européennes, l'Espagne se retrouve, elle, en pleine crise politique. Faute de majorité pour voter son budget, le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, pourrait convoquer des élections législatives anticipées le 28 avril ou bien le 26 mai, date des élections européennes. Un scrutin qui voit de nouveaux partis apparaître ou se structurer avec des chances d'obtenir des eurodéputés. Et c'est en Europe de l'Est que le paysage politique a le plus changé, Audrey Tison.
Des nouveaux mouvements nationalistes sont notamment apparus. En Slovaquie, les partis dénommés « Nous sommes une famille » et « Notre Slovaquie » ont une chance d'entrer au Parlement européen. Chez les voisins polonais, Miroslav Piotrowski quitte le parti « Droit et justice » pour former un mouvement encore plus à droite en vue des européennes. La Pologne où est aussi apparu un parti de droite tendance populiste mené par un chanteur punk, Cookies est assuré d'obtenir des eurodéputés. Tandis qu'à gauche, Robert Biedroń lance son mouvement Printemps qui défend notamment les droits des LGBT. Des partis apparaissent en effet autour de combats de société. Deux mouvements anticorruption prennent forme en Roumanie, notamment autour de l'ancien Premier ministre Cioloș. Le parti pirate, lui, va beaucoup plus loin. Il veut réinstaurer une vraie démocratie en Europe. Mouvement transnational, il peut espérer obtenir plusieurs sièges, notamment en République tchèque. Dans certains pays, il se retrouvera en lice face à un autre mouvement transnational, Volt Europa, créé en réaction au Brexit.
Plus de 100 000 bébés meurent chaque année à cause d'un conflit armé, des guerres directement ou de leurs conséquences, faim, manque d'hygiène ou d'accès aux soins. C'est la conclusion alarmante ce matin de l'ONG Save the Children qui s'est penchée sur le sort donc des bébés en Afghanistan, au Yémen, en République démocratique du Congo ou encore en Syrie. La Syrie au cœur d'une nouvelle réunion hier à Sotchi entre la Russie, l'Iran et la Turquie, au menu des discussions notamment le retour des réfugiés souhaités par Damas au nom de la normalisation. Ils sont 5 millions à vivre dans les pays limitrophes de la Syrie, dont 1 million de réfugiés au Liban, qui vivent dans des centaines de camps informels, notamment dans la vallée de la Beka, le long de la frontière syrienne. Des camps soumis à un hiver particulièrement rigoureux, Aurélien Colli.
Des tentes de fortune éventrées par le vent, de l'eau stagnante à l'intérieur, des affaires personnelles qui flottent à l'extérieur. C'est ce qui reste du camp 014 dans le village d'Anjar. Ça fait 15 jours que c'est inondé, il n'y a plus personne ici. Moi je suis venu voir ce qu'il reste, explique Raeb, le regard vide. Ce père de famille fait partie des 300 réfugiés qui vivaient ici, évacués en urgence et réinstallés à quelques kilomètres. La tente a été inondée en pleine nuit, l'eau a emporté toutes nos affaires. Ils nous ont sauvés, nous ont emmenés ici et ils ont donné une tente à chaque famille, raconte Kiraz, entouré de ses enfants. Ils, ce sont les ONG libanaises soutenues par l'ONU qui relogent dans des tentes neuves, isolées du sol et à l'abri de nouvelles inondations. On n'a pas de poêle à mazout, les enfants ont froid, ils ont faim, il faut plus de couverture, plus d'aide, déplore un peu plus loin Zeynab avec son bébé dans les bras. Le problème, c'est que tous ces camps informels sont à côté de rivières ou sur des terres agricoles inondables, explique un volontaire de l'ONG qui gère ce nouveau camp. Prêt désormais à accueillir plus de réfugiés sinistrés. 11 000 ont déjà été touchés par les intempéries cet hiver. 50 000 autres seraient menacés par une nouvelle tempête attendue ce week-end.
Aurélien Colli au Liban pour France Culture. 100 millions de dollars pour aider le Venezuela. C'est ce compromis hier 25 pays après une conférence de l'Organisation des États américains hier à Washington. Le temps de ce vendredi 15 février plutôt ensoleillé. Au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 15 degrés au nord de la Seine, 14 à 18 en général plus au sud, jusqu'à 21 dans le Var, Guillaume Erner.